Et tout de suite avec toi, Marion, par téléphone, Anthony Fian pour l'exposition Wang Bing à la trace. Anthony, est-ce que vous êtes avec nous ?
Bonjour,
Anthony.
Je vous écoute.
Parfait, bonjour Anthony.
Oui, bonjour Anthony. Et avec vous, on va parler d'une exposition, l'exposition Wang Bing à la trace. À la galerie Art et Essai de Rennes 2, Wang Bing est à l'honneur depuis le 14 janvier et jusqu'au 26 février, puisqu'une exposition lui est consacrée. Et Anthony Fian, vous êtes le commissaire de l'exposition qui présente 5 installations vidéo et une série de 8 photographies. Mais avant d'entrer un peu plus dans les détails de l'exposition, j'aimerais qu'on évoque Wang Bing. Il est considéré comme l'un des plus grands cinéastes contemporains, auteur de près d'une vingtaine de films, principalement documentaires. Il filme la Chine que l'on voit peu, des vies et des histoires anonymes qui racontent la grande histoire, mais aucun de ses films n'a jamais été diffusé en Chine, car son pays le censure. Et vous, Anthony, est-ce que c'est de cette manière que vous auriez introduit Wang Bing et son œuvre ? Qu'aimez-vous dire pour le présenter ?
Oui, vous avez dit quelque part l'essentiel, puisque donc Wang Bing est un documentariste chinois qui est né donc en 1967. Et c'est quelqu'un qui a d'abord, et je crois que c'est important dans la perspective de l'exposition que nous présentons à la galerie ARSC, c'est quelqu'un qui a débuté en étudiant la photographie d'une part, puis le cinéma, mais non pas en tant que réalisateur, mais en tant que chef opérateur. Donc la question de la photographie fixe ou mouvante est présente dès sa formation. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui a suivi une formation classique en Chine, et il a commencé à travailler dans le monde du cinéma de façon très classique, c'est-à-dire en servant des films contrôlés par les autorités chinoises, puisque le cinéma chinois, comme vous le savez sans doute, est un cinéma extrêmement étatisé, c'est-à-dire que l'État autorise les tournages, autorise la diffusion des films, se préoccupe que le discours des films correspond au discours de l'État, bref, contrôlé. Vous avez utilisé le terme de censure dans votre présentation, je crois que le terme n'est pas trop fort. Et donc, Wang Bing était donc parti pour faire une carrière de technicien du cinéma sur des films, pourrait-on dire, muselés par l'État. Et très vite, il ne trouve pas matière à émancipation dans ce cadre-là, et il décide de tourner son propre film. Il le fait sans autorisation aucune. Il décide de se rendre dans un gigantesque complexe industriel qui est à ce moment-là en pleine déliquescence. Hein, on est à la toute fin du XXe siècle. Là, on est en 1999, pour être précis. Et il décide de se rendre dans ce lieu, seul, équipé d'une simple caméra amateur, hein, un caméscope. Et il reste pendant 2 ans à observer un petit peu ce qui se joue, ce qui se passe dans la déliquescence de ce complexe industriel. Et donc, au terme de 2 ans, il commence à monter son film, sans financement aucun, je le répète, hein, sans autorisation aucune. Hein, donc son geste initial est déjà un geste clandestin, pourrait-on dire. Et il commence donc à montrer son film ici ou là, notamment dans un certain nombre de festivals occidentaux, et plus particulièrement le festival de Berlin, qui montre une première version assez longue de ce film, une version de 5 heures, et tout de suite, les critiques prennent conscience qu'ils assistent à la naissance d'un grand cinéaste, d'un grand documentariste qui trouve comme ça la bonne place, la bonne distance pour documenter ce qui se joue dans ce complexe industriel. Et donc à partir de ce premier film, hein, dont la version finale fera 9 heures, qui est découvert en France en 2004, hein, puisqu'il bénéficie d'une très modeste diffusion dans certaines salles de cinéma, mais ensuite il bénéficie d'une diffusion sur support DVD, hein, qui le fera connaître. À partir de là, donc, il développe une œuvre intransigeante, une œuvre indépendante, toujours donc sans autorisation des autorités chinoises. Hein, le geste liminaire est vraiment un geste radical et définitif. Et la reconnaissance dont il bénéficie à l'étranger va très vite lui permettre de développer un certain nombre de projets dans des conditions matérielles qui restent très modestes. Hein. On lui donne des financements pour réaliser des films dans des conditions un peu meilleures que son premier film, encore une fois sans financement aucun, hein, durant 2 ans. Et à partir de là, donc, il va développer une œuvre qui va emprunter, comme j'ai l'habitude de le dire, notamment dans un ouvrage que j'ai consacré à ce cinéaste-là, une œuvre qui va emprunter deux veines que l'on peut considérer commodément comme des veines distinctes, mais qui finalement n'en font qu'une. Tout d'abord, une veine anthropologique, ouverte donc avec À l'ouest des rails, avec des films dans lesquels donc il observe les conditions de vie, les conditions de travail, des oubliés de la croissance économique exponentielle de la Chine, hein, ceux que l'on peut appeler les laissés pour compte de la croissance économique de ce pays qui est devenu la première puissance économique mondiale. Donc une première veine d'observation, on va dire. Et puis très vite, et dès son second film, qui s'intitule Feng Ming, chronique d'une femme chinoise, alors qu'on pouvait penser qu'il allait se consacrer entièrement à l'observation de la Chine contemporaine, eh bien, Wang Bing décide de revenir sur le passé de la Chine. Mais là encore, un passé peu glorieux, un passé que les autorités chinoises ne souhaitent pas voir représenté sur des écrans de cinéma ou de télévision, puisque l'épisode historique plus spécifique auquel il va s'intéresser, c'est un épisode qui est lié à des camps de rééducation ouverts par Mao à la toute fin des années 1950 et au tout début des années 1960. Et dès ce second film, Wang Bing va recueillir un certain nombre de témoignages de survivants de ces camps ou bien de compagnes de prisonniers qui ont perdu la vie dans ces camps. Donc une deuxième veine d'ordre historique qui est minoritaire sur la vingtaine de films du cinéaste, mais une veine extrêmement importante qui s'est concrétisée ensuite sur d'autres films, notamment Les âmes mortes, hein, qui est l'un des derniers films du cinéaste. Donc voilà à gros traits le parcours du cinéaste.
On comprend un peu mieux le parcours de Wang Bing, qui a ainsi acquis une renommée sur la scène internationale. Et puis jeudi dernier, il est venu à Rennes pour présenter son travail. Il a raconté lui-même qu'il n'avait pas l'habitude de voir ses films dans les musées. Ce sont les musées qui se sont tournés vers les galeries pour acquérir des films. Et ça l'a amené à s'interroger sur la forme de cette vidéo. Mais vous, à travers la sélection des installations vidéo, 5 en tout, que vous présentez dans l'exposition Wang Bing à la Trace, pourquoi diriez-vous qu'elles trouvent leur place dans une galerie ?
Alors, effectivement, pour lui, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est assez simple. S'il existe encore, s'il peut encore faire des films aujourd'hui, c'est à travers cette reconnaissance en dehors des frontières de la Chine. Donc pour lui, dès lors qu'on lui fait une proposition, qu'on lui donne un peu d'argent, hein, et encore une fois j'insiste, on est là sur des budgets extrêmement modestes, dès lors qu'on lui offre ces possibilités-là, ces opportunités, eh bien il les saisit immédiatement, il répond donc à des commandes en provenance du monde de l'art contemporain, du monde des galeries, hein, et la galerie Chantal Crouzel, qui est partenaire de cette exposition, va jouer un rôle extrêmement important. Mais comme il le dit souvent, comme il a pu à nouveau le répéter effectivement jeudi dernier lors de la rencontre, lui ne fait pas de véritable distinction dans la finalité de ses films. Si on lui donne un peu d'argent pour faire un film de télévision, il prend. Si on lui donne un peu d'argent pour faire un film de cinéma, il prend. Si on lui donne un peu d'argent pour réaliser un film destiné à une galerie, il prend. C'est une forme d'opportunisme, hein, mais un opportunisme de bon aloi, bien sûr. Et donc finalement, lui, il ne fait aucune distinction. Il filme qu'il a envie de filmer. Il s'intéresse à des situations dont il considère qu'il est très urgent de témoigner. Et voilà, que ce soit une galerie ou autre, eh bien, il saisit ses opportunités. Alors peut-être que une chose que permet les galeries, puisque bon, c'est peut-être pas non plus sans conséquence aucune que d'accepter de faire un film pour une galerie, c'est peut-être, je dirais que c'est, il saisit ces opportunités aussi pour laisser libre cours à son rapport au temps. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai évoqué le premier film qui fait 9 heures, j'ai mentionné tout à l'heure le film Les âmes mortes qui fait la même durée. Vous voyez bien qu'avec des durées pareilles, l'exploitation dans les salles de cinéma est très compliquée. Les galeries d'art, les manifestations d'art contemporain sont très friandes de ces durées absolument hors normes. Et donc, voilà, c'est peut-être aussi l'opportunité de pouvoir diffuser des œuvres avec des durées totalement hors normes. Hein, et il n'en est qu'une que nous présentons dans cette exposition qui est l'installation, mais aussi le film le plus long de Wang Bing, puisqu'il fait pas moins de 15 heures. Hein. Et donc, voilà, le monde de l'art contemporain est en mesure d'intégrer dans ses expositions des œuvres à la durée hors normes.
Et au cœur de cette exposition, également une série de 8 photographies de Wang Bing, la série Father and Sons. Et qu'est-ce que ces photos nous donnent à voir? Parce que, vous l'avez dit, Wang Bing a commencé avec une formation de photographe. Mais alors, comment ces photos peuvent-elles montrer une autre facette du travail de Wang Bing?
Alors, effectivement, la série de photographies s'intitule Père et Fils. On présente simultanément une installation vidéo qui porte le même titre, hein, et qui dure 85 minutes. Et je crois que c'était important pour nous que d'avoir ces deux aspects de l'œuvre dans l'exposition. Je crois que les approches d'un même sujet sont en l'occurrence tout à fait complémentaires. En deux mots, en 2013-2014, Wang Bing travaille dans la province du Yunnan, où il filme trois jeunes filles abandonnées de leurs parents qui vivent et travaillent dans un village de haute montagne. Dans ce village, il apprend que des hommes, voire des jeunes femmes, des jeunes enfants quittent le village pour se rendre dans de plus grandes villes et travailler dans des usines. Donc il a immédiatement le sentiment de tenir là un sujet. L'urgence à témoigner de cette situation, eh bien, l'anime à nouveau, et il suit ces personnes, et c'est ce qui l'amène dans cette ville où il va à la fois filmer un père et deux fils, mais aussi les activités de ces deux garçons. Alors effectivement, raison pour laquelle j'ai insisté dans mon introduction sur l'importance de la photographie chez lui, hein, il est initialement photographe, et donc la complémentarité entre l'installation et les photographies, je dirais que l'installation, elle est entièrement consacrée à la vie à l'intérieur de l'endroit où ces deux garçons et leur père vivent. C'est-à-dire, comme très souvent, hein, avec cette Chine des oubliés, un endroit quelque peu insalubre, puisque le père et les deux fils vivent dans ce qui s'apparente plutôt à une forme de garage dans lequel on a un seul lit.
Et là, on va devoir continuer un petit peu dans l'interview parce que malheureusement le temps passe et j'avais une toute dernière question avant de devoir rendre l'antenne, car vous l'avez un petit peu expliqué, on le comprend, vous prenez votre temps pour raconter le travail de Wang Bing, mais l'essence de son travail, c'est de témoigner de l'histoire de la Chine pour ne pas que cette histoire soit oubliée. Et son œuvre au long cours de près de 20 ans est en fait inclassable, elle rencontre de manière unique des travailleurs pauvres, dans la série Père et Fils, de l'histoire entre un père et son fils, mais également des malades psychiatriques ou encore des personnes migrantes. Mais de quelle manière pensez-vous que son œuvre peut nous toucher, alors que ce travail-là est censuré en Chine et que les Chinois eux-mêmes ne peuvent pas voir le travail de Wang Bing? Comment peut-il nous toucher, nous, sur la scène internationale? Et ce sera ma dernière question.
Eh bien, écoutez, ma réponse cette fois sera très courte. Ben, tout simplement parce que le sujet de tous ces films est lié à la condition humaine et que il n'y a pas plus universel comme sujet, quoi. Voilà, la manière dont ces oubliés, ces laissés pour compte se heurtent aux difficultés de la vie, eh bien, ça parle, évidemment, à un public occidental. Voilà, les questions abordées sont des questions universelles, et le cinéma de Wang Bing n'est pas du tout lié à des spécificités, enfin, un folklore chinois, ou ne nécessite pas une connaissance approfondie de la Chine pour ressentir ce que vivent ces oubliés.
Merci beaucoup Anthony d'avoir pris le temps de nous présenter Wang Bing, et on aurait aimé écouter encore son travail pendant longtemps. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'exposition Wang Bing à la trace, vous pouvez tout simplement aller la découvrir à la galerie Art et Essai de Rennes 2, et elle est disponible jusqu'au 26 février.
Merci beaucoup Anthony.